Vous écoutez On lit pour vous.
TDAH, un avantage évolutif chez les chasseurs-cueilleurs. Un texte d'Olivia Bokobza, paru le 28 février 2024 dans Psychologie. De récentes études mettent en lumière un lien entre certains avantages à l'origine de l'évolution des espèces, notamment chez les chasseurs-cueilleurs, et les caractéristiques du TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce qui paraît parfois handicapant dans nos sociétés contemporaines aurait été un avantage évolutif chez les chasseurs-cueilleurs. Le TDAH est un trouble fréquent dont les premières manifestations apparaissent au cours du développement de l'enfant et peuvent persister à l'âge adulte. C'est un trouble de l'autocontrôle du comportement, de l'attention, des émotions et de la motivation. Le TDAH est caractérisé par les symptômes suivants: hyperactivité, impulsivité et déficit attentionnel. Le TDAH, un avantage pour l'évolution de l'espèce. Des chercheurs ont récemment affirmé que ce trouble aurait pu être considéré comme un véritable avantage évolutif pour les chasseurs-cueilleurs. Le mode de vie des chasseurs-cueilleurs est historiquement basé sur la chasse, la pêche et la cueillette. Il fait référence au premier mode d'existence de l'espèce humaine, dont le but était de trouver des ressources dans la nature pour survivre et se développer. Une équipe de chercheurs de l'Université de Pennsylvanie, associée à des chercheurs de l'Institut indien de technologie de Kanpur, a mis en évidence que les symptômes des personnes atteintes de TDAH, considérés aujourd'hui comme des caractéristiques handicapantes, étaient en réalité un avantage évolutif pour les chasseurs-cueilleurs et plus amplement les communautés nomades. L'étude, relayée par le média Trust My Science, se porte sur la recherche de nourriture, activité essentielle à l'évolution de l'espèce. Cette recherche nécessite, indique Trust My Science, un compromis entre l'exploration de nouvelles régions et l'exploitation des zones connues. Or, le TDAH pourrait favoriser un comportement efficace dans cette recherche et, de ce fait, influencer la capacité de prise de décision bénéfique dans cette situation. En proposant à près de 500 participants la pratique d'un jeu de recherche de nourriture en ligne visant à cueillir le maximum de baies sur des buissons durant 8 minutes, les participants ayant un diagnostic de TDAH où certains symptômes se sont avérés plus efficaces pour aller explorer de nouvelles zones et trouver de la nourriture, quand les autres se cantonnaient à cueillir un maximum de baies sur les premiers buissons visibles. En délaissant rapidement les premiers buissons, les aventuriers TDAH ont permis au groupe de récolter davantage de baies en un temps imposé. L'impulsivité, un atout dans la prise de décision rapide. L'étude suggère ainsi que les participants qui pourraient sembler a priori dissipés et désorganisés se sont avérés être les meilleurs dans l'optimisation de la stratégie de collecte de nourriture. Elle vient appuyer plusieurs autres études insistant sur le lien entre les caractéristiques du TDAH et le fonctionnement des collectivités nomades. Dans notre passé évolutif, un comportement qui peut être qualifié d'impulsif a parfois pu être très avantageux, avait indiqué au Guardian Michael J. Rice, professeur à l'University College de Londres. Ces traits caractéristiques qu'on a trop souvent tendance à appeler symptômes seraient en réalité des atouts vitaux dans certaines situations, comme celles nécessitant des déplacements physiques et des prises de décisions rapides. Les chercheurs concluent leur étude sur le fait que si le TDAH est considéré comme un handicap, c'est fortement en raison de nos modes de vie actuels et qu'il pourrait être un véritable atout dans des situations vitales. Ce qui se joue dans ces situations est la forte concentration sur une tâche que les professionnels appellent souvent hyperfocus, ainsi que l'appétence pour le mouvement, deux caractéristiques des personnes atteintes de TDAH. À la lumière de ces études, nous pouvons ainsi rappeler que nos différences ou celles de nos enfants peuvent être nos propres forces si on les considère comme telles. Ainsi, des enfants impulsifs et hyperactifs peuvent souffrir de ces caractéristiques, mais leur impulsivité et leur bougeotte peuvent être des atouts dans certaines situations. La rapidité à effectuer des tâches qui les passionnent, des facilités dans certaines activités physiques, par exemple. C'était TDAH, un avantage évolutif chez les chasseurs-cueilleurs. Un texte d'Olivia Bokobza, paru le 28 février 2024 dans Psychologie.
Pourquoi en voit-on de toutes les couleurs? Un texte de Chloé Bourquin, paru le 19 mai 2024 dans la presse. Des aurores boréales ont illuminé le ciel du Québec pendant les nuits du 10 et du 11 mai 2024, lorsqu'une tempête solaire d'une rare puissance s'est abattue sur la Terre. Mais qu'est-ce qui leur donne ces couleurs chatoyantes et ces formes variées? Gaz et altitude. La couleur des aurores dépend de plusieurs facteurs, notamment de la composition de l'atmosphère, mais aussi de l'altitude à laquelle elles se forment. Lorsqu'une éruption solaire se produit, elle projette parfois vers la Terre une grande quantité de particules électriquement chargées, des protons et des électrons. Lorsqu'elles atteignent notre planète, ces particules percutent des molécules et des atomes de la haute atmosphère, les faisant s'ioniser et produire de la lumière. C'est le même phénomène que dans un tube à néon, qui est constitué d'un gaz où l'on fait circuler un champ électrique, illustre Loïc Kennel, communicateur scientifique au planétarium Rio Tinto Alcan. Le gaz accumule de l'énergie, qu'il va ensuite relâcher en émettant de la lumière. Cette lumière sera d'une couleur différente selon le type de gaz percuté par les particules provenant du Soleil. Par exemple, si la collision se fait entre 100 et 300 km d'altitude avec des molécules d'oxygène, il se produit une aurore verte, la plus communément observée. Vers 300 ou 400 km, en revanche, ce qui correspond à l'altitude de la Station spatiale internationale, les molécules d'oxygène se font rares. Les particules rencontrent plutôt des atomes d'oxygène et on observe alors des aurores rouges. Vers 100 km d'altitude, si la collision se fait avec des molécules d'azote, la couleur sera rose ou rouge foncé. Enfin, même si elles sont difficiles à voir, des aurores bleues et mauves peuvent aussi se produire à cette altitude avec des molécules d'hydrogène ou d'hélium. Une histoire de champ magnétique. Si les aurores surviennent habituellement dans le Grand Nord ou autour de l'Antarctique, c'est en raison du champ magnétique terrestre qui dévie les particules chargées provenant du Soleil pour les envoyer vers les pôles. Cependant, lorsque le vent solaire est particulièrement puissant, comme c'était le cas les 10 et 11 mai 2024, il arrive que des aurores soient visibles à des latitudes inhabituelles, par exemple au sud du Québec ou en France. Leur forme dépend de la façon dont elles interagissent avec les lignes du champ magnétique, explique Loïc Quenel. Les aurores ont ainsi l'apparence de draper près des pôles magnétiques, mais elles seront plus diffuses si l'on se situe loin de ceux-ci, car on pourra alors n'en observer que la partie supérieure. L'œil moins performant que le cellulaire. À l'œil nu, les aurores ont cependant des couleurs moins vives que celles que l'on peut voir en photo. Les cellules nerveuses de l'œil, chargées de distinguer les différentes couleurs, appelées les cônes, doivent en effet recevoir beaucoup de lumière pour fonctionner. Pour maximiser ses chances de voir les couleurs des aurores lors d'une tempête solaire, il est donc recommandé de s'éloigner des villes afin de limiter la pollution lumineuse. Il faut aussi garder en tête que chaque personne a une expérience relativement différente des aurores boréales, souligne Loïc Quenel. On a tous vu des photos d'aurore, donc il est possible que parfois, notre cerveau nous fasse voir de la couleur là où notre œil n'est même pas capable d'en voir. Si vous avez raté ce spectacle, rassurez-vous. Le soleil vient d'entrer dans une période de maximum intensité, un phénomène périodique qui revient tous les 11 ans environ. Bien qu'il soit difficile de les prédire, il est probable que de nouvelles tempêtes solaires, et donc d'autres aurores, reviennent illuminer le ciel dans les mois à venir. C'était « Pourquoi en voit-on de toutes les couleurs ?» un texte de Chloé Bourquin, paru le 19 mai 2024 dans La Presse.
La Cly-fi, un genre littéraire qui inspire l'action, une chronique d'Hélène Lequitt, parue le 8 mai 2024 dans L'Eau vive, en Saskatchewan. L'éco-anxiété fait partie de notre quotidien et il n'est pas facile de vivre avec le sentiment que le monde autour de nous est en train de changer de façon irréversible. Aussi, le courant littéraire Cly-fi pour Climate Fiction ou Fiction climatique s'est imposé au fil du temps, passant du récit futuriste dystopique à la réflexion personnelle comme moyen de lutter contre le statu quo ambiant. En 2007, le journaliste indépendant et militant écologiste Dan Bloom invente le terme « climate fiction » ou « cly-fi » en abrégé, tiré et inspiré du mot « science-fiction ». Si les récits de fiction climatique peuvent se dérouler dans le passé, le présent ou un futur pas si lointain, ils sont tous liés au bouleversement climatique et à la fin du monde. Un genre pas si récent. Dès 1931, l'écrivain québécois Emmanuel Desrosiers écrit le livre « La fin de la Terre ». Cet ouvrage est alors considéré comme le premier roman de science-fiction sur le continent. Bluffant et visionnaire, l'auteur s'interroge déjà sur une question aujourd'hui fondamentale et qui, à l'époque, peut sembler surréaliste. Que faire lorsque la Terre n'aura plus aucune matière première à offrir et que sa population ne pourra plus survivre, piégée par les volcans qui surchauffent, et les continents qui disparaissent sous l'eau? Au fil des années, la question des dangers de la surexploitation de la nature et de ses ressources naturelles revient en boucle, comme un moyen de projeter sur une page blanche l'inconscient collectif et les peurs qu'il recèle. Dans son livre « Le dernier homme », paru en 2003, l'autrice canadienne Margaret Atwood utilise comme toile de fond la catastrophe écologique pour décrire un monde où les humains doivent se battre pour leur survie, plongés dans un univers où conditions climatiques et manipulations génétiques mettent en péril leur avenir.
source d'inspiration ou bien intuition, les récits de nombreux écrivains font écho à une réalité de plus en plus proche de celle de 2024. Inondations, méga-feux, tsunamis, et ce, du Canada aux Philippines, où la météo rythme assurément le quotidien et les lendemains. Pensez le monde de demain. Fort d'une quantité prolifique d'œuvres, le Clifey peut-il inspirer, au final, l'action? Est-ce possible de passer de l'imaginaire à la conscience? Car ce genre littéraire ne traite pas seulement de fin du monde, il est aussi porteur de mise en garde. Loin des récits dystopiques futuristes, il mue pour nous faire réfléchir sur notre rapport à la nature et à nous-mêmes. Par exemple, le livre « Hors saison » 2023 de l'auteur français Basile Mulciba raconte le triste sort d'une station de ski confrontée à l'absence de neige. La station se vide, le temps est suspendu face au processus de dérèglement de la nature déjà bien entamé. Le face-à-face avec la nature est alors inévitable. À l'instar de cette histoire, le mois d'avril sonne déjà l'alerte en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, trois provinces qui anticipent des feux de forêt ravageurs, peut-être pire encore que ceux des années passées. En attendant, la fiction climatique est un genre littéraire considéré comme un acte de résistance pour certains, voire une manière de contrer le statu quo pour d'autres, notamment face à certains climato-sceptiques. La plume saura-t-elle l'emporter sur l'épée? C'est l'avenir que nous écrivons, tant au propre qu'au figuré, qui nous le dira. C'était la Clifey, un genre littéraire qui inspire l'action, une chronique d'Hélène Lequitte, parue le 8 mai 2024 dans L'Eau vive en Saskatchewan.
Les sociétés historiques francophones n'appartiennent pas au passé. Un texte de Camille Langlade, de Franco-Presse, paru le 16 mai 2024 dans l'aurore boréale du Yukon. Composé de passionnés, de chercheurs, mais surtout de bénévoles, les sociétés historiques ont à cœur de partager l'héritage francophone de leur territoire. Elles ont cependant plusieurs défis à relever pour rester ancrées dans le présent et l'avenir. Citation: quand on pense à une société d'histoire, souvent, on a un peu cet esprit de voir une étagère poussiéreuse, avec des livres poussiéreux, qui sont fort intéressants peut-être, mais pas très attractifs. Fin de citation, regrette Alexandre Chartier, directeur général de la Société historique de la Saskatchewan. Citation: oui, il y a bien une étagère de livres, parce que c'est une société de savoir, de savants, d'histoire. Mais la poussière n'est qu'un stéréotype. Fin de citation, ajoute-t-il. Dès son arrivée au sein de l'association en 2013, le directeur a voulu qu'elle soit partie prenante de la communauté. Citation, il y a beaucoup de rayonnement à faire, de promotion. Ellipse, par exemple, dès qu'un organisme voulait travailler sur l'histoire, on leur demandait de venir nous voir et on allait travailler avec eux. Le but du jeu, ça a été de devenir presque indispensable pour la communauté. Fin de citation, raconte-t-il. Pour ne pas faire partie des meubles, beaucoup de sociétés tissent des partenariats avec d'autres organismes francophones. Parfois, leur survie financière en dépend. Des sentinelles de la francophonie. En plus de préserver le patrimoine historique et culturel, les sociétés historiques francophones contribuent à renforcer le sentiment d'appartenance. Citation, il y a un lien entre les besoins d'une communauté et son désir d'asseoir son origine sur une histoire. Fin de citation, explique Stéphanie Saint-Pierre, professeure d'histoire à l'Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse, pour pouvoir entre autres légitimer la présence francophone sur un territoire. Au Yukon, la société veut également partager une histoire, citation, qui commence à être connue chez les francophones, fin de citation, mais qui reste encore, citation, très méconnu chez les anglophones et les Premières Nations, fin de citation, déclare son président Ian Harry. À la recherche de bénévoles. Si certaines sont implantées depuis des décennies, d'autres sont beaucoup plus récentes, comme celle du Yukon créée en 2021. La seule au nord du 60e parallèle, rappelle Ian Harry, son président. La Société d'histoire francophone du Yukon, SHFY, compte entre 60 et 70 membres, mais très peu de moyens. Citation. L'objectif de 2024 et 2025, c'est vraiment de répondre aux critères de patrimoine canadien pour être reconnu comme société d'histoire et avoir accès à un financement de base qui permettrait d'avoir des employés. Mais pour le moment, il faut faire nos preuves. Fin de citation. Partage Lucide, Ian Harry. 125 ans d'histoire francophone. À l'occasion des 125 ans du Yukon comme entité politique canadienne séparée des territoires du Nord-Ouest, l'Aurore boréale a réalisé, en partenariat avec la Société d'histoire francophone du Yukon, SHFY, un recueil de photos et d'anecdotes témoignant de la présence des francophones sur le territoire, de la ruée vers l'or à nos jours. Citation. On n'avait pas nécessairement les capacités en ressources humaines pour faire des recherches sur un projet de cette ampleur-là. Fin de citation, confie Marine Dumaine, directrice et rédactrice en chef du journal. En retraçant le parcours de la communauté francophone, ce projet est aussi un moyen de rappeler, citation, l'importance de toujours militer pour conserver les droits. Fin de citation, souligne Ian Harry. Citation. Pour savoir Yukon va, il faut savoir Yukon vient. Fin de citation, sourit Marine Dumaine. L'un des principaux défis auxquels font face ces sociétés reste le manque de ressources humaines. La plupart du temps, elles sont tenues à bout de bras par des équipes de bénévoles chevronnées. Citation. Il y a de plus en plus d'occasions de faire du bénévolat, mais pas nécessairement plus de bénévoles. On épuise souvent notre bassin. Fin de citation, observe Stéphanie Saint-Pierre, aussi membre de la Société historique acadienne de la Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Si certaines équipes, comme en Saskatchewan, affichent une moyenne d'âge parfois en dessous de 30 ans, d'autres peinent à attirer de jeunes recrues. Citation, c'est beaucoup des membres qui sont plus âgés, donc ça fait que c'est toujours un groupe de personnes aînées qui s'intéressent aux objectifs de la société. Fin de citation, confie Hélène Thimault, présidente de la Société historique de la Baie-Sainte-Marie. Selon elle, les jeunes ne sont pas désintéressés. Ils sont juste déjà fortement sollicités et impliqués dans d'autres organismes. Attirer de nouveaux publics. Citation. Si on veut avoir une pertinence sociale, il faut aussi trouver de nouveaux moyens de rattacher l'histoire des francophonies locales à des histoires plus larges. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que c'est complètement déconnecté du monde. Fin de citation, souligne de son côté Joël Béliveau, professeur émérite d'histoire à l'Université Laurentienne en Ontario. L'historien insiste sur le besoin de publiciser les activités via les réseaux sociaux pour atteindre de nouvelles personnes. Citation, si on continue à faire une ou deux ou trois conférences par an, puis qu'on utilise la même liste de diffusion, on va finir par rassembler le même public qui va vieillir un peu chaque année inexorablement. Fin de citation. En Saskatchewan, grâce à une subvention du ministère provincial de l'Éducation, la Société historique présente des ateliers au sein des écoles. La demande est telle que l'association ne peut pas répondre à toutes les requêtes, assure Alexandre Chartier. L'organisme emploie également des jeunes, avec des contrats de quelques heures par semaine en parallèle de leurs études. Une expérience gagnant-gagnant, selon le directeur. Citation, ça me permet de voir comment ils consomment, quelles sont les nouveautés actuelles, ellipse, pour mieux répondre après avec les projets. Fin de citation. L'association a aussi ouvert une boutique en 2021 où elle propose des chandails et des t-shirts à son effigie. Citation, ça fonctionne très bien. Les jeunes capotent quand ils les voient. Fin de citation, affirme-t-il. Citation. Des fois, on a l'impression que, comme c'est une société historique, il faut que ce soit vieillot. Mais on peut se faire un rebranding assez jeune. Fin de citation, commente Joël Béliveau. Citation. Il faut savoir prendre le public où il est, avec ses sensibilités actuelles. Il ne faut pas les convaincre de s'intéresser à quelque chose qui ne les intéresse pas. Il faut leur montrer qu'il y a quelque chose là qui les intéresse. Fin de citation. Le défi de la recherche. Citation. Vu qu'on est en minorité, on est moins connu dans le domaine de la recherche, et vu qu'on est moins connu, on attire moins d'intérêt d'étudiants-chercheurs. Fin de citation, déplore Alexandre Chartier. Le directeur général de la Société historique de la Saskatchewan appelle à mettre sur pied un secteur de la recherche plus solide. Citation, on devrait avoir droit à une certaine autonomie, en fait, pour pouvoir donner des bourses ou encourager les jeunes à faire des sujets. Fin de citation. Bientôt un réseau pancanadien? En Nouvelle-Écosse, Stéphanie Saint-Pierre déplore, elle, le manque de discussion entre les sociétés d'histoire. Citation. Au Québec, il y a vraiment un réseau de sociétés historiques, mais on n'a pas nécessairement ça en milieu franco-minoritaire. Fin de citation. Les choses pourraient néanmoins changer. Fondé en 2022, le Réseau Mémoire Patrimoine Histoire, MPH, regroupe des organismes du patrimoine des deux minorités linguistiques du pays. Ce réseau a notamment comme objectif de constituer des communautés de pratique, mais aussi de, citation, créer des études, de montrer des chiffres et le besoin qu'il peut y avoir. Fin de citation, relève Alexandre Chartier. Citation, parce que là, à l'heure actuelle, il n'y a qu'un seul fonds qui finance les archives dans tout le Canada. Fin de citation. Le directeur rappelle pourtant le lien organique qui relie les communautés francophones à leurs archives. Citation. La dernière chose qui reste d'une civilisation ou d'un groupe communautaire, c'est la société d'histoire ou son musée. Tout aura disparu, mais qu'est-ce qui reste? C'est le bureau de tourisme pour aller visiter et voir les vestiges. Fin de citation. C'était Les sociétés historiques francophones n'appartiennent pas au passé. Un texte de Camille Langlade de Franco-Presse, paru le 16 mai 2024 dans l'Aurore boréale du Yukon.